Cook, et nous sommes dans la partie Eretz Israël, deuxième chapitre, donc page tête. Je rappelle ce qu'on avait vu la première fois, que le Rav Cook nous explique dans le premier chapitre de la terre d'Israël. En fait, cette première partie qui s'appelle Eretz Israël vient nous expliquer, je rappelle, l'essence de ce que c'est et ce que ça représente la terre d'Israël dans l'identité juive. Et il nous explique que c'est un lien atzmouti. Tu ne peux pas faire ça, en fait. La terre d'Israël n'est pas un Sefer Torah. S'il n'y a pas de Sefer Torah dans la communauté continue quand même à exister. Et on prendra un Chumash et on lira la Torah dans le Chumash jusqu'à ce qu'on ait un Sefer Torah. Mais le lien qui nous unit à la terre d'Israël, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est profondément ancré, c'est ce qui nous permet de donner la vie. C'est ce qui permet de faire qu'on est qui on est si on a la terre d'Israël. Si on n'a pas la terre d'Israël, ce n'est pas un lien de vie. Alors vous allez me dire, pendant 2000 ans, on s'est bien débrouillé. D'accord ? On s'est débrouillé. On a survécu. D'accord ? Maintenant, ce que le Rav Kook nous a expliqué la semaine dernière...
Non mais, oui, Israël était présent.
Oui, il était présent, mais on ne pouvait pas y aller. C'était compliqué. C'est-à-dire que, concrètement, le peuple juif...
Quand tu dis Israël, c'est vraiment...
La terre, Adama.
C'est
Adama,
sinon quoi?
Le peuple. Pendant 12 ans...
Non, je parle du peuple juif dans son lien avec le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a trois dimensions.
Je ne comprends pas la différence entre le lien avec la Torah et le lien avec Eretz Israël. Les deux sont inhérents.
Ah non, bien sûr, je n'ai pas parlé de la Torah. J'ai parlé du Sefer Torah.
Un Sefer Torah, d'accord.
Ok, j'ai dit, s'il n'y a pas un Sefer Torah dans la communauté, ça n'empêchera pas la communauté d'étudier la Torah.
Et sans Eretz Israël?
Ah, s'il n'y a pas Eretz Israël, il n'y a pas de véritable connexion avec un Israël. C'est-à-dire que c'est un Israël manquant. Par exemple, si pendant 2 ans, on n'avait pas dit l'an prochain à Jérusalem, on se serait perdu. Oui. Comme de la même façon, si pendant 2000 ans, on n'avait pas mis les tefillin. Allez, rappelle-toi...
Donc, il n'y a pas de différence.
Ah non, entre la Torah et Eretz Israël, pas différent. Okay, j'ai parlé du Sefer Torah.
D'accord, okay.
C'est-à-dire qu'Israël n'est pas un Tashmishek Douja.
Okay.
C'est quelque chose d'essentiel. Mais tu as raison, on a trois dimensions. On a Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël. Okay, les trois sont fondamentales et essentielles. Pendant 2000 ans, la Torah a été en danger. Puisque je vous rappelle que selon la Torah, tu ne dois pas faire Shabbat à Paris.
Ni mettre les tefillin.
C'est-à-dire, selon la Torah chez Birtav. Selon la Torah. Quoi, il ne mettait pas.
Non, Paris, ça ne sert à rien.
Je ne sais pas dans quelle communauté. Ouais,
tu viens de le dire. Donc voilà,
j'ai dit après. D'après la Torah, le Deoraita, eh bien, tu ne dois faire la Torah qu'en Eretz Israël. Je ne sais pas. D'après les Deoraita, tu dois faire la Torah qu'en Eretz Israël. Maintenant, Chachamim, ils viennent, ils te disent, bon, écoute, on part en exil là maintenant pendant X temps. On a vu ce qui s'est passé simplement après 70 ans. Puisque rappelez-vous, Galut Bayit Rishon, 70 ans. En 70 ans, on est parti, on a oublié ce que c'était Shabbat, on a oublié Sukkot, on était marié avec des goyotes. Comment c'est possible? Parce qu'il n'y avait pas encore la Takana de Chazal, donc ils ne faisaient pas la Torah à Babylone.
C'est pas la Torah à Babylone?
Il y a peut-être un mec qui a décidé de continuer, mais... A priori, pourquoi?
C'était pas
jour en
la Torah nous a dit qu'on ne fait pas la Torah quand on n'est pas en Israël.
C'est marqué, ouais.
Ine chukim u'mishpatim asher tzivani Hashem Elohai la'asotken bekerev haaretz. C'est inversé, je peux t'en sortir plein. Donc ça veut dire que dans la Torah, c'est clair. Ine natati lachem et eretz kenaan liot lachem l'Elohim. Donc il n'y a pas eretz kenaan, ni lo lachem l'Elohim.
Ils n'ont pas fait la Torah à Babel,
c'est pas pendant 70 ans.
Ouais. Et les Talmud Bavli, ils ont
mais
bien.
C'est beaucoup plus tard, deux secondes. C'est beaucoup plus tard. Là, je te parle de la Babylone entre le Khorban Bayit Rishon et Ezra. Ok ? Pendant cette période-là des 70 ans, je vois mal comment on peut expliquer comment, au bout de 70 ans, des mecs qui reviennent avec Ezra et Nehemia, ils connaissent pas le Shabbat, ils connaissent pas la fête de Sukkot, ils sont tous mariés avec des goyotes. C'est que concrètement, là, c'est la Torah, c'est pas vraiment ça qui les a maintenus. D'accord ? Donc, quand on va finalement partir en galoute de Bayit Sheni, qui. On ne sait pas combien de temps il va durer. À l'époque, ils ne savent pas que ça va durer 1900 ans, mais ça va durer. On ne va pas recommencer le même problème. Donc, Chazal dans le Sifri vont mettre en place cette takana que bah, Gam et Chutz Laaretz ont fait la Torah. Évidemment, pas les mitzvot qui sont en rapport avec la terre d'Israël, mais tout le reste, on fait la Torah. Et pourquoi ? Atzivilar Tzionim. Vas-y, Atzivilar Tzionim, bah, mettons-nous des repères. Parce que sinon, on va oublier. Pour ne pas oublier, vous connaissez le Midrash qui nous dit, c'est comme Machal et Mahadabar Domed, un roi qui est marié avec sa reine, il est énervé contre la reine, il la renvoie, et il dit, bon, par contre, continue à t'habiller comme une reine, comme ça, quand je t'appellerai, parce que je me serai calmé, tu sauras encore comment on se comporte comme une reine. Donc évidemment, si pendant 2000 ans, on n'avait pas mis les tefilines, on ne saurait pas ce que c'est les tefilines, si on n'avait pas fait Shabbat, ainsi de suite. Donc pendant 2000 ans, on a gardé la Torah, et ça a été un combat de tous les jours. Je dis, de la même façon, le lien avec la terre d'Israël.
Tu l'auras dit ça en France ?
Hein ?
Tu l'auras dit ça en France ?
C'est une évidence, non ? Maintenant, ce lien avec la terre d'Israël, le problème, c'est que même quand tu as dit l'an prochain à Jérusalem, c'est théorique. Les boîtes noires que tu mets sur la tête, elles ne sont pas théoriques. Mais là, c'est théorique. Puisque tu ne pouvais pas concrétiser le lien avec la terre d'Israël, il y a des gens qui, bah, finalement, ont dit, bah, ça va, on peut très bien se débrouiller sans.
Ils faisaient quand même tout Bishvat.
Ah.
Non, il n'y avait pas le corbier.
Qui faisait tout Bishvat ? Dans le cours qu'on a fait dimanche matin, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, le premier truc qu'on voit de tout Bishvat, c'est Chassidé Ashkenaz au XIIe siècle. Et il y avait qui ? Il y avait 20 personnes. Après, ça va être démocratisé par les élèves du Harizal, Rabbi Chaim Vital. Ils étaient combien ? 100 personnes. Le tout Bishvat, qu'on envoie un plateau avec marqué tout Bishvat Sameach sur la pomme, c'est il y a 2 jours et demi. Hein. Ah là là. Cherki, il a dit un truc sur Gibbat Shmuel. Oh là là.
Comment ça ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Pas hier.
Non, non, pas hier. Il a fait un cours il y a je sais plus combien de temps. Machin. Et c'est un cours d'Afrique pour jeunes.
Oui, il était là, Torah noire.
Attends, attends, attends. Attendez, t'es pas là-bas.
Non, il y a ma fille qui était. Il y a ma fille qui était.
Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé, Mada Tarav, c'est quoi l'idée, c'est quoi la position du rap par rapport au Shinuya Alaha Lefi Azmanim. Alors, il a dit que. Il a dit plein de choses, mais entre autres choses, il a dit, par exemple, il y a plein de gens qui veulent changer les halakha par rapport au Mahamad Aïcha, par rapport au statut de la femme. Il dit, comment tu sais que c'est quelque chose qui est mythique, qui est profond, et que Kanyere, que le moment est venu de faire quelque chose, c'est quand ça vient de toi, Misraël. Alors il a dit, Mikevan, que pour l'instant, ceux qui veulent changer Mahamad Aïcha Bayadout, c'est uniquement la élite ashkenazi, Tatsfon Bonit, Gibbat Shmuel. Alors, Kanyere, que c'est pas encore le moment.
D'accord, à Jérusalem, elles sont plus.
Féminisme. Non, t'as
non, le féminisme orthodoxe, il vient surtout de Jérusalem. Dans le Merkel, c'est non, beaucoup
je
moins.
J'ai pas calculé. Non, enfin bon, l'orachou, c'est pas notre sujet. Quoi qu'il en soit, donc c'est une évidence qu'on vient de dire. Donc, la question qui est posée par le deuxième chapitre, c'est comment ça se fait que des gens ne comprennent pas. Si c'est tellement évident que le lien avec la terre d'Israël, c'est un lien de vie, c'est notre unité, c'est ce qui va faire que, je reprends la dernière phrase qu'il a dit, Tzipiata Yeshua Iakoach Hamaamid Shalaya Aduta Galutit, l'espoir de la délivrance, c'est ce qui maintient le judaïsme de Chutz Laaretz, et le judaïsme d'Eretz Israël, c'est la délivrance elle-même, la Yeshua Atzma. Donc, ok, très bien, c'est pas shoot. Donc si c'est tellement pas shoot, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, y compris, ben, la personne à qui il s'adresse dans la première partie, à savoir le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui était complètement opposé au sionisme. Il n'est pas le seul, hein, à cette époque-là, il y en a plusieurs qui sont opposés au sionisme. Donc là, dans le deuxième chapitre, le Rav Kook va nous expliquer comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme lui. Ok ? Alors c'est parti. Aliede, itrachakut me'akarat arazim, ba'akara shel kdushat eretz Israël betzora metushteshet. Voilà, c'est pas shoot. Lorsque tu t'éloignes de l'étude des secrets de la Torah, Torah ta Kabbalah, alors ta compréhension de ce que c'est la terre d'Israël, elle est metouche techet, floue. Pas shoot. Et oui, dans quel milieu on a eu des rabbins qui se sont opposés au sionisme ? Tous les milieux qui n'ont pas étudié la Kabbalah. C'est pas shoot, mais oui. Ça n'existe pas. Dans les mondes des Mekoubalim de l'époque et même aujourd'hui, des gens qui sont opposés. Non, t'es pas d'accord ?
Non, c'est le Rambam, on dit qu'il n'a pas étudié la Kabbalah du tout. Pourtant c'était le...
Ah non, on n'a pas dit que lorsque tu n'étudiais pas la Kabbalah, alors t'es forcément anti. Non, on n'a pas dit ça. C'est-à-dire, Et d'abord, dans notre cours sur le Rambam, on a dit que ce n'est pas évident cette histoire
de
Rambam.
Il n'y a pas de kabbalistes qui ont...
Mais voilà, c'est-à-dire que tu peux être Béad aussi, Eretz Israël, si tu es que à Niglé. Parce que
mais
ça vient étudier.
Mais cette mère, par exemple, ils sont...
Hein?
Cette mère, à mon avis...
Ah, ils ne sont pas du tout Kabbalah.
Ils ne sont pas Kabbalah.
Non, voilà, et la Chassidut, ce n'est pas la Kabbalah.
Tu peux aller Chabad. Bah,
à l'origine, quand même...
La Chassidut, dès son origine, ce n'est pas Torah ta Kabbalah. La Chassidut du Baal Shem Tov, je parle du Baal Shem Tov parce qu'il y a ce qu'on appelle. Ok, ça marche aussi. Là, tu vois, on a parlé du Baal Shem Tov.
T'as vu ? On touche à la Kabbalah directement.
Et forcément, il se passe des trucs. Il se passe des trucs.
Il faut être prudent. Quand on évoque certains sujets.
T'as vu ?
J'ai entendu le compteur.
Ouais, oui. C'est Vadaï le disjoncteur. Qu'est-ce que t'as branché ?
Je sais pas.
Nounou.
Chabad.
Alors, toute la chassidoute. Toute la chassidoute. C'est pour ça que quand je dis à la chassidoute, je parle du Baal Shem Tov. Je ne parle pas de ce qu'on appelle chassidé Ashkenaz, tout ça, machin. Ce n'est pas de ça que je parle. La chassidoute du Baal Shem Tov, c'est traduire la Kabbalah au niveau de l'individu. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il va utiliser le langage de la Kabbalah. Et donc, quand j'ai le Baal Shem Tov, c'est vrai aussi pour la Gemara Zaken, pour le Chabad, mm-hmm. ce que tu veux. On utilise le langage de la Kabbalah, mais ramené au niveau du Nefesh Aparat. Ce
donc
qui est très important.
C'est une partie de la Kabbalah, mais
c'est pas la Kabbalah. C'est pas Torah ta Kabbalah. Torah ta Kabbalah, elle ne parle que du clan. Mais c'est très. Enfin, il y avait une nécessité de Torah ta Hassidut, donc très bien. Et on utilise ce langage-là. Mais c'est pas la même chose. Mm-hmm. Donc, Besofo Shel Davar, prenons par exemple le monde Sepharad. Le monde séfarade, il n'y a personne qui s'est opposé au sionisme. Zéro. Il n'y a aucun rabbin à l'époque du Rav Kook séfarade qui s'est opposé au sionisme. Ils étaient tous béad. Parce que dans le monde séfarade, il y a deux choses qui n'ont jamais arrêté d'étudier. Le Tanakh et la Kabbalah. Alors que dans le monde ashkénaz, il y en a qui ont continué à étudier ça, mais c'était vraiment sur les doigts d'une main qu'on pouvait les compter. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de pile-poule, mais justement le pile-poule, il peut t'emmener à des conclusions erroné. Alors que Torah ta Kabbalah, elle n'est que tournée vers la terre d'Israël, vers la vie, vers l'idéal de la Torah, et c'est ce que nous dit également le Tanakh. Quand tu lis le Tanakh, toutes les deux pages et demie, tu comprends que si tu n'es pas en Israël, tu es au Veda Avodah Zara.
Ouais, c'est ça que vous
faites.
En France,
pourquoi vous enseignez la Kabbalah? Enfin, c'est le Tanakh et vous enseignez la Kabbalah.
Prenons le Tanakh.
Tu regardes toutes les pages du Tanakh, qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas en Israël? Il n'y a pas de plus grand. De plus grande klala que venir reta un efeshaïm et améa. Qu'est-ce qu'il dit David quand il est obligé de s'enfuir de Avshalom ou de Shaoul, jamais. De lui on apprend quoi? Non, tu te rappelles pas? Venista parte ayom minachalat Hashem laavod Elohim acherim. C'est-à-dire que David qui est obligé de s'enfuir, même pas bechoul, mais simplement begat chez Achish Melech Gat, il dit bon ben je suis en oved avodah zara. Ouais. Non, t'es Oved Hashem. Oui, non, mais la Gemara, elle va dire dans Ktubot que celui qui habite en Chutz Laretz, c'est Kilo Oved Avodah Zara. C'est-à-dire, dans le Tanakh, si t'es pas en Israël, atalo Shayach.
C'est marrant que finalement tu dises, enfin, le Rav Kook, il dit en fait que c'est quelque chose de tellement essentiel et qu'il faut arriver à la Kabbalah pour comprendre l'essentiel.
Donc t'as compris?
Donc, t'aurais dû le dire, voilà, première page, le premier truc, voilà.
C'est pour ça que j'ai dit, il y a deux choses. Il y a Tanakh et Kabbalah. Alors, la Tanakh, c'est la base de la Nevoa, donc c'est la base de la Kabbalah également. Et donc, ça veut dire que quand tu t'éloignes de ça, eh ben, tu t'éloignes. Et donc, tu vas penser que tu peux, si jamais tu es un bon chômeur Shabbat et quelqu'un qui fait pas de la Shonara, c'est bon. Ben non, ça suffit pas. Il te manque un truc. Et donc, le quelqu'un qui est dans la Karat Arazim, il sait qu'il lui manque un truc. Donc, forcément, il va vouloir partir. Donc, nous disons, que tous les Chougim qui ont mis de côté Torah ta Kabbalah, il n'y a que là-bas, qu'on a trouvé des gens qui se sont opposés.
C'est quoi la Kabbalah?
C'est quoi la Kabbalah? C'est la traduction après la prophétie de ce qui reste de la prophétie.
C'est la traduction.
C'est la traduction intellectuelle de ce que les prophètes ressentaient, vivaient.
Donc c'est la Gemara des prophètes, quoi? C'est l'explication
ouais, si
des
tu veux.
Prophètes.
Si tu veux, c'est la Gemara des prophètes. Ouais, voilà.
C'est ça.
C'est, tu vois, tu vois le gmaratiste?
Oui, non, c'est ça, c'est
le talmudiste. Mais c'est une explication pas mal.
C'est le Raj, c'est à la base, c'est le Rajbi?
Non, à la base, c'est Shuv. La Kabbalah, il y a un cours le dimanche matin, à 9h en Zoom. Ouais, non, mais je fais ma pub à moi. Non, il y en a trois, effectivement. Moi, je suis le premier. Il y a un cours le dimanche matin qui parle de l'histoire de la Kabbalah.
Ok.
Okay.
Tu le réfères à la...
Et donc, je vous réfère à ce cours-là. De 9 à 10. Maintenant, il y a un cours fantastique après, de 10 à 11, du Rav Cherki sur l'écoute et Moharan. Et il y a un cours tout aussi fantastique après, de 11 à midi, du Rav Ben Arouche sur le Rav Ben Arouche. Sur le Torah de la Kabbalah.
La
Gemara de Rav Ben Arouche. Donc, ça s'appelle la Yeshiva Online. Et donc, nous, on a parlé de l'historique de la Kabbalah et on a compris qu'en fait, non, ça commence pas du tout avec Rabbi Shimon Bar-Yochai. D'abord, c'est la névoie d'abord. Et une fois qu'il n'y a plus la névoie, on va voir que chez l'Anshe Knesset Hagdola, ça va déjà commencer. Et ensuite, il y aura des chougim avant Rabbi Shimon Bar-Yochai, par exemple Rabbi Akiva.
Mm-hmm. Donc, il y a des livres de Kabbalah?
Comment ça, il y a des livres de Kabbalah?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui expliquent la névoie.
Radaï,
ça. Ouais.
Radaï.
Oui. Quoi,
tu vois, t'as entendu parler du Zohar?
Le Zohar, oui.
Par exemple. Ben, c'est pas le seul.
Le
Ramchal beaucoup plus tard, mais même à l'époque, je veux dire, bien sûr.
Ok.
Vas-y. Donc, Aliédé.
Il n'y a pas de Tosfot, Kabbalah, de la Gemara.
Quoique, on a vu ensemble que Rabbeinu Tam, Verashi, c'est Alpé à Kabbalah. C'est-à-dire, on a vu. On a étudié aussi qu'est-ce qui se passait chez les Géonim, que parmi les Géonim, ils étaient tous Betor et Inyané à Kabbalah.
On a vu que le Gaon de Vilna était très kabbaliste, non?
Oui, le Gaon de Vilna c'était un kabbaliste énorme, mais le Gaon de Vilna c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Quand je parle des Géonim, je parle des Géonim du 8e siècle.
Mm-hmm. Quand tu dis Alpé à Kabbalah, il a ça, par exemple, Alpé à Kabbalah, ça veut dire en fait il a appris l'explication de la névoie, et donc il te ramène l'explication de la névoie à ça,
et il t'explique comment est-ce que c'est ça qu'il faut
comprendre dans la névoie.
Dans le pasouk.
D'accord.
C'est l'explication interne, on va dire.
Oui, l'explication, Machenikra, dans le langage du Ramban, il appelle ça Alpi Derecha Emet. Yesh Apshat, Yesh Derecha Emet. Ok ? Donc tout ça pour dire que tous ceux qui se sont opposés à ça, bah, c'est de là-bas qu'on a vu des gens qui se sont opposés au sionisme. Donc tu dis, Al-Yede Idrachakut Be Akarat Arazim, Ba Akarash El Kdushat Eretz Israël, Be Tzura Metush Teshet. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים לדברים תפילים שאינם נכנסים בעומק הנשמה.
C'est
dur, hein? Tu dis, על ידי התנקרות, c'est-à-dire, je me suis vraiment détaché de סוד השם. Donc, il y a des rabbins qui ne voulaient pas étudier ça. Ils avaient peur de ça.
Non, parce qu'il y a eu des problèmes pour ceux qui ont étudié aussi.
Il n'y a rien.
Il y a des problèmes pour
dans le monde ashkénaze, il y avait la crainte de Shabtai Tzvi.
Aujourd'hui encore, il y a des gens qui tuent à Kabbalah
qui perdent la boule.
Qui perdent la boule. Nahon ? Il y a des gens qui tuent à Kabbalah qui perdent la boule, il y a des gens qui n'étudient pas la Kabbalah qui perdent la boule aussi. C'est l'osé. Mais on va dire que dans le monde ashkénaze, il y a un traumatisme depuis Shabtai Tzvi. On n'y est pas encore, mais on va y arriver. Il y a un traumatisme depuis Shabtai Tzvi qui va faire que tout ce qui ressemble à la Kabbalah, ça fait peur. Pas parce que ça fait peur qu'il faut arrêter.
Non, mais même la Kabbalah, elle a un certain niveau, c'est pas pour tout le monde.
Bah, encore une fois, c'est là, à qui il parle le Rav Kouk ? Il parle au rabbin. Il dit comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ?
Il
parle au Rav Hirsch. Il dit le Rav Hirsch, c'est un tamid raham, il connaît toute la Torah, t'as niglé. Comment ça se fait qu'il ne comprend pas l'évidence ? Il n'a pas étudié Torah Tassod. C'est pas chute. Mais je dis, c'est Torah Tassod, mais c'est Gamatana. Et donc il te dit, allez, il n'a cru que tu as אל סוד השם, הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהים. דונק סיכו, הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהים. זה התורה, זה התנ"ך.
לא, זה היפר פור. לתורה סון לקבלה. זה היפר פור, אופת.
אופת, לתורה סון תורת הקבלה, זה, שווי תדיר, זה ככשוס דה טחי, זה עמוד דמפלואה, זה... Un guide de l'action, si tu veux. Torah chez Béalpé, ça nous explique quoi faire et comment faire. C'est où ? C'est pas shoot. C'est ça son rôle. Ça donc quand tu étudies.
Je mettais des films, c'est pourquoi les mettait.
Qui ?
Le
Alors je veux vrai dire, il mettait les films. Shalom. Il mettait les tefilines et j'imagine que peut-être que lui il avait étudié.
Il était encore à l'aise.
Pas quoi tu dis ?
Je le dénonce, hein.
Je sais pas quoi te dire.
Tu l'as dit ?
J'ai engueulé. Mais toi, tu te dis. Vous savez, dans la Neshama, il y a cinq dimensions qui s'appellent Nefesh, Ruach, ou Neshama, Chaya, Veyechida. Omek, Sheba Neshama, c'est Chaya, Veyechida, c'est-à-dire le lien qui me connecte avec Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est bon, Ignatia. D'accord ?
Je m'excuse.
Oui.
Juste une toute petite interruption, intervention.
Je t'en supplie.
Arrêtez le journal.
Non. Et en fait, j'ai une grande tante qui est décédée jeudi, qui s'appelait Gilberte Sasson, qui était une grande dame très très sioniste, et qui était une très grande fan des cours du Rav Etam, des cours de nos cours du lundi soir. J'avais même envoyé parfois des questions au Rav, des commentaires qu'elle faisait. Très proche d'elle depuis toujours. J'ai appris ce matin son décès parce que mes parents ne voulaient pas nous le dire pendant la bar mitzvah et ainsi de suite. Donc voilà. Et son dernier message à ma maman, c'était « Mon petit-fils écoute les cours du Rav Fison ». C'est le dernier message WhatsApp qu'elle a reçu. Donc, voilà, parce qu'elle m'a envoyé encore il y a deux semaines.
Son petit-fils à elle ?
Son petit-fils à elle.
Ah,
ouais.
Il habite où ?
Un message sur le courrier. À Paris. Elle habite à Paris. Ses petits-enfants sont en Israël.
Ah, d'accord.
C'est bon.
Ils sont très bien.
Bon, bah alors, évidemment, quand on étudie les Elohim Nishmata, rappelez-nous le nom.
Alors, Gilbert Messaoudi Bat Hasiba.
Gilbert Messaoudi Bat Hasiba.
Hasiba, voilà.
Eh ben, un grand honneur. Alors justement, on explique ce qui se passe quand on n'étudie pas les profondeurs de la Torah. D'accord ? Umimeila yersar koach hayoter adir benishmat ha'uma ve'hayachid. Nersar. Il manque a koach hayoter adir benishmat ha'uma ve'hayachid. C'est quoi le koach hayoter adir ? Mise à adir. אדיר זה הקדוש ברוך הוא. נכון? לכן נחסר הכוח של הקדוש ברוך הוא באומה וביחיד. Oui, parce que le yachid, s'il ne connaît que le mode d'emploi de comment il faut faire, mais qu'il n'a pas d'un côté, de l'autre côté, etc., il n'a pas le pourquoi il faut faire, c'est-à-dire comment tu te rattaches à Kadosh Baruch Hu en faisant ça, c'est Nersar HaKoach HaAdir. Donc la Torah Shebe'al Peh, Torah Tanigle, elle est très importante. Si tu ne la connais pas, tu ne sais pas comment être juif. Mais Torah Tassod, si tu ne la connais pas, tu ne sais pas pourquoi être juif.
Je pense que c'est le Manitou qui avait l'expression de dire que Torah Tassod nous permet de trouver sa place et Torah Tanigle nous permet de l'occuper.
Exactement. Ben c'est ça. Ben, Manitou, c'est Torah Tassod. C'est exactement ça. Donc c'est pas Pachout en fait. Ok ? Maintenant il faut comprendre pourquoi. L'opposition de ceux qui sont niglétistes, elle vient du fait qu'on peut pile-pouler. Alors le Torah ta pile-poule, qui est né au 15e siècle, a fait beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de nézek. C'est-à-dire, le monde Sfarad, on l'a dit tout à l'heure, il n'a jamais été dans Torah ta pile-poule. Tu prends quelqu'un comme le Rif, et je ne fais pas de pub pour aucune synagogue, mais tu prends quelqu'un comme le Rif, il ne pile-poule pas. C'est quoi le Rif ? C'est l'Agmara sans le pile-poule. C'est-à-dire que dans le monde séfarade, on n'a pas été faire une gymnastique intellectuelle pour essayer de se casser la tête. Dans le monde Ashkenaz, on a fait ça. Alors ça a commencé avec les Tosafot, mais Mamash, Rabbi Yaakov Polak en Pologne, et Rabbi Shalom Sachne, c'est eux qui vont mettre en place vraiment une Torah à pile-poule.
C'est la Gemara elle-même quoi, qui le fait.
La Gemara elle fait Shakla Vetaria, mais en vrai, la Gemara c'est Debaktana. C'est-à-dire, tu prends la Gemara sans.
Ouais,
ton Tosfot et son.
Même pas que Tosfot, mais tous ceux qui viennent après. C'est... Tu finis vite, Daf Yomi. Quand tu fais Daf Yomi uniquement avec le Daf, tchik-tchak. Après, qu'est-ce qu'ils vont te dire dans les Yeshivot ? Ils vont te dire que t'es un Atzlan. Il faut aller étudier, machin. Pourquoi ? pas pour forcément connaître la halakha, mais pour connaître tous les avis qui ont été donnés sur le sujet. Et, mais, oui, d'accord, c'est intéressant. Mais est-ce que tu sais quel est le sens profond ? Donc c'est de ça qu'on parle. D'accord ?
Justement, tu peux répéter, donc, le, comment il s'appelle, la Kabbalah, elle te donne le pourquoi.
Le pourquoi.
Le pourquoi. Pourquoi.
Ah, le pourquoi. Toi, ta Niglé, t'explique comment faut faire. Toi, ta Kabbalah, elle te dit pourquoi.
Le sens profond.
Le sens profond.
Et quoi, dans la... Enfin... Il n'y a pas une émouna psychique, quoi. Si on a besoin d'un pourquoi, si on a besoin d'un explique, je sais pas moi, de père en fils, on me dit, faut faire ça, je le fais, quoi, c'est tout.
Lama. Il n'y a aucun idéal dans le judaïsme d'être bourg et amaret.
Non, mais dans ce cas-là.
Si, par exemple, la voix de Tachem, Bet Mimout, etc.
Ah, Bet Mimout, ça veut dire quoi?
Pleinement.
Béchlémout. Ouais. C'est tout sauf de Bet Mimout, genre comme on l'entend en hébreu moderne.
Non, mais
Tmimout en hébreu, voilà, Tmimout en hébreu moderne, c'est pose pas de questions. Non, Tam, ça veut dire Shalem. Bon, Shalem, c'est que tu as posé toutes les questions.
Bon, mais après, dans le langage...
Non, bah, je m'en fiche du langage courant.
Non, mais par exemple, dans les Arbabanim...
Oui, le, bah, le Tam,
c'est pas celui
si,
qui
c'est
est...
Shalem.
Ouais.
Vadaï.
Oui.
Vadaï. Bah, je sais pas, moi, il est marqué dans la Torah, Yaakov Ishtam Yoshev Oalim. Quoi, ça veut dire qu'il est débile? Non, parce que c'est ça que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que le Tam dans la Haggadah, il est dessiné comme étant pas le mec le plus intelligent de la soirée.
C'est le plus faible, quoi.
Hein ? On est d'accord ?
C'est le plus fort lors de la soirée.
Bien sûr. Il pose la meilleure question. Il dit Mazot.
C'est mieux que le Chacham, on va dire ?
Vadaï. Vadaï ! Le Chacham, il a posé une question technique de Halakha. Et ouais. Qu'est-ce que tu lui as répondu ? Une réponse technique de Halakha qui n'a rien à voir avec sa question. Et il va faire un pile-poule toute la soirée. Tu les connais, ces mecs.
Tu sais que j'ai pensé à toi, parce que tu me l'as dit plusieurs fois dans les cours sur la Hagada, et j'étais à une bar mitzvah à Paris, et vendredi soir, il y a l'oncle de mon neveu, de l'autre côté, qui fait un pile-poule hyper compliqué sur ma côte le vendredi soir. Je me dis, oh là là, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le bug, là? Et la plupart des gens qui étaient en plus
ils
très
dormi.
Loin de tout ça, et... Mais ça m'étonnait parce que c'est pas du tout le style. Et à un moment, il s'arrête comme ça et lui fait « Bon, t'es bien conscient que c'est pas un discours de bar mitzvah ce que je suis en train de faire. » Alors,
moi, il était conscient.
Non, il est net. Et il lui a dit « Non, tout ça pour te dire que la bar mitzvah, c'est pas du folklore. Là, maintenant, c'était très bien, non, il s'est passé des choses super cette semaine et tout. Mais c'est maintenant que ça commence. Donc, il faut s'y mettre. Et... »
Là, il faut l'air.
Mais j'ai trouvé ça bien.
C'est bien. Enfin, tout ça pour te dire que, ouais, il
n'y
a aucun idéal de ne pas savoir.
De se contenter du superficiel.
De se contenter du superficiel, certainement pas. Alors, je ne dis pas que si tu n'as pas tout compris, tu t'arrêtes de faire. Je n'ai pas dit ça. Je dis que l'idéal du judaïsme, c'est que tu saches. C'est vrai ? Donc, nous dit le Rav Kook, si donc, tu es tellement éloigné de ça...
Tu veux un exemple ? Par exemple, du pourquoi qu'il y a dans la Kabbalah,
tefilin. Bah, par exemple, les tefilin. On a parlé des tefilin tout à l'heure. D'après le Torah Taniglé, tu mets les tefilin, pourquoi?
C'est le Hod.
C'est très, moi.
C'est Hod de Siad Mitzrayim. Ok. D'après Torah Takabbalah, Mazé, c'est en quoi c'est Hod? Parce que tu as pris le Olam Yosher, tu as pris l'Olam Aigulim, c'est-à-dire le monde de la nature, et tu l'as rendu Olam Yashar. Puisque les Paronais Mitzrayim, ils avaient des tefilin Betsurat Nachash. Donc, ils avaient une vision du monde sur leurs bras et sur leur tête qui était tournée uniquement par la force naturelle. Et toi, tu viens et tu en fais une ligne droite. Le monde de la transcendance qui fait qu'en fait, ce qui va te faire comprendre les choses, ce n'est pas leur dimension naturelle, mais c'est celui qui a donné l'ordre à la nature d'être. Et tout ça, tu l'apprends quand tu sors d'Égypte. Parce que se dévoile lorsque tu sors d'Égypte. Mishé Amar Veaya Olam. C'est autre chose quand tu mets des tefilin.
Demain, je vais.
Ça donne une autre dimension à tout ce que tu fais.
Navadai. Ok. Les Machal, est-ce que tu as le droit de prendre un loulav yavesh?
Je pense pas.
Oui, bien
sûr. Loulav yavesh, pas soul. Un loulav sec, qui est tout moche, c'est pas soul. Nous dit la Gemara, le Talmud à Bavli, donc Torah Taniglé, Pourquoi est-ce que c'est pas possible? Parce que le loulav, il est dans le même passouk que le etrog. Et dans le etrog, il y a marqué Adar. Mais Adar, c'est Yafé. Donc là, ils ont fait un Xera Shava, c'est marqué Yafé là-bas, là, marqué Yafé, Yafé aussi. Tant, c'est pile-poule. Ah, c'est pourquoi il faut qu'on prenne un loulav. Parce que techniquement, il y a marqué là-bas que ça doit être Yafé, donc il doit être Yafé. Nous dit Talmud à Yerushalmi, Alpia Agada. Le Pia Kabbalah, on dit pourquoi on prend, pourquoi l'oula va vèche pas soul, qui l'aura metim, y'a alléluia. Donc maintenant tu as compris, quand tu prenais le loula vayad, à ta beetse, mechaye et amisrael. C'est achayout chez l'amisrael, arbat amin.
Ah, ok.
Et donc il peut pas être yavesh parce que l'aura metim, y'a alléluia. C'est-à-dire, donc, dans chaque chose, après c'est un travail hein, de comprendre chaque chose. Le Ben Ishraï, il a fait ce travail-là, par exemple.
Des cours tous les jeudis soirs.
Et il y a les cours de l'histoire à Ranana, vous êtes conviés aussi, les cours du Rav Yoel Ben Arosh. Il y a le cours numéro 1, le cours numéro 2, le cours numéro 3.
C'est des différents niveaux.
Ouais, ouais. Mais c'est que des cours de Kabbalah, mais de différents niveaux.
Mais c'est ouvert à tous.
Donc voilà, c'est Khachoub. Et encore, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne fais pas, tu dis le Rav Kook, c'est pas shoot. Au final, donc. Ta relation avec la terre d'Israël, elle est metouche techet, ve agalut motset hichen mitzad atzmuta. Je kiffe Paris. Oh, ça va, on peut très bien être juif à New York.
Saint-Brice.
Ou à Saint-Brice. Ou l'homme jamais. C'est-à-dire, quand on arrive à dire, ah, mais ça va, on peut très bien être juif, on est très très bien. Mais t'inquiète pas, on vient en vacances en Israël. Il y a un vrai bug fondamental. Un juif qui pense qu'il n'y a aucun problème d'habiter en Chutz La'aretz, il y a un bug dans toute sa Torah. Et c'est d'autant plus compliqué quand en plus il est Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, Shomer tout ce que tu veux.
Oui, il n'a pas dit la Kabbalah.
Non, mais tu comprends qu'il y a un bug.
Je ne sais pas.
La Torah, elle te dit qu'il faut être ici tout le temps. Mais quand on arrive à développer une idéologie que c'est bessèder, pas, j'ai pas le choix, j'aimerais bien, mais je peux pas, parnassa, la famille, c'est autre chose. Mais quand on arrive à développer une idéologie que c'est bessèder, non.
Mais c'est pas ça, là, il dit motset, motset, yichen, ça veut dire c'est pas...
C'est kiff, c'est un kiff, c'est un kiff, c'est un kiff, c'est un kiff, pas shoot. Attends, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il pouvait pas faire la lia parce qu'il y a pas le dimanche en Israël. Sérieux?
Allez, y a moi, pas je de... le comprends aussi. Quelque part. Je comprends trop.
Quelque part. Non,
quoi moi, il est là, mon travail.
Attends, ça s'appelle pas dimanche.
De dimanche. On n'a pas ce
truc-là en. C'est pas assez de français
en Israël. Tu donnais un cours sur le fait qu'on ne peut pas retourner en Israël avant la guerre, avant l'esclavage.
Ouais.
Comment ça se fait qu'on n'a pas cette attirance de revenir en Israël? Tu vois, c'est ça qui me surlève. Parce que tu vois, quand tu dis. Ça veut dire là, celui qui ne comprend pas la Torah, ta Kabbalah et tout, alors il est bien. Comment ça se fait qu'on n'a pas built-in
parce
en
que,
nous
parce
une attirance
on,
naturelle
on a built-in en nous, mais il y a un truc qui est. On a, c'est built-in. Mais on a un autre truc qui est aussi là, c'est ce qu'on appelle Ve'ishkita Beraglecha. Alors, à propos de la terre de l'Égypte, on te dit qu'elle ne ressemble pas à la terre d'Israël, puisqu'en Égypte, Ve'ishkita Beraglecha. Tu vas arroser le terrain avec ton pied. R.
Avec le Nil, il faisait
voilà, c'est-à-dire que tu as le Nil. Et donc, en fait, avec mon pied, je fais une théala. Et j'amène l'eau du Nil qui va irriguer mes cultures et tout va bien. En Eretz Israël, il va falloir que je prie pour la pluie. Et c'est que des roches. Donc, je ne peux pas faire avec mon pied. Il va falloir faire des terrassos. Le confort de Chutz La'aretz ou caché Meod. Ça, il est très très facile, donc c'est caché, mais autre. C'est caché.
Mais juste, je suis un contre-exemple. À 18 ans ou 17 ans, je suis monté en Israël. Je n'ai pas vraiment réfléchi, c'est quelque chose d'intérieur.
Non, d'accord, mais ça c'est toi et moi. Moi je suis pareil. Moi aussi j'ai ressenti ça. Mais
donc, ça existe. Niveau,
bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais si on prend un prisme collectif, c'est vrai qu'on est un peu des marginaux, en vrai. même s'il y a eu une vague comme ça dans nos années, mais dans, il y a quand même plus de juifs qui sont restés.
On est quand même arrivé.
Non, on n'est pas arrivé à beaucoup. Je veux dire, concrètement, combien y a de Français, de francophones qui sont arrivés en Israël?
Non, mais on est 7 millions de.
Ah, de juifs dans le monde.
7 millions d'Olim
Khadashim. Mais, vadaï, tu as raison. N'oublie pas que à ça vient s'ajouter, il y a eu plein d'événements qui ont fait que. On va pas. Il y a des événements qui ont montré concrètement que, bah voilà, en exil, c'était un petit peu compliqué. La chute du mur de Berlin, l'ouverture du monde soviétique. Il y a plein de choses qui ont fait qu'il y a eu des grosses
alliés de masse. On devait choisir, par exemple, entre plusieurs options. C'est l'option.
Oui, d'accord. Mais encore une fois, quand tu me parles de ceux qui sont venus juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même une réalité où la galoute, l'Europe, c'était très 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 compliqué. Quand les juifs du Maghreb, on les a fait sortir du Maghreb, non, c'est parce que c'était très compliqué de rester là-bas.
Il y avait plusieurs options.
C'était Choum d'Avar. Je t'invite vraiment à prendre les chiffres de comment, depuis la première alia, les gens ils commencent à venir en Israël. Zemamash, tipim, Zavatrala, Zekloum.
Ouais, ça, je sais pas, que quand je prends le résultat, je me dis qu'il y a quelque chose qui attire.
Kadosh Baruch Hu, il gère bien.
Mais voilà, donc il y a quelque chose de.
Et il y a aussi le fait que cette Torah, Tassod, elle est présente dans le peuple juif, même si elle n'est pas en.
Ouais,
même si la personne ne le connaît pas. Donc
présent.
Le problème, il est chez le rabbin qui lui a étudié, mais pas Torah Tassod.
Ouais.
C'est d'autant plus clair qu'après 70 ans, finalement, après le Khorban Beit Rishon. Après 70 ans, les gens ne sont pas revenus.
Ah,
c'est là, tu peux dire Alpaïm Shana,
ah bah oui,
tu peux
oui.
dire autant pas en 2000 ans, ils ont fait la Torah, les
Mitzvot. C'est caché.
Ils ont habitué comme ça, mais après 70 ans.
5 ans,
c'est rien.
Après 5 ans de famine et 5 ans de. Enfin, de. Oui, ils étaient en Égypte, ils n'ont pas voulu rentrer.
Mais oui, mais.
C'est la question de l'air.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a?
Pourquoi ils sont repartis au bout de 5 ans?
Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je dois te. Est-ce que je dois te raconter l'histoire qui m'est arrivée la semaine dernière où quelqu'un m'a dit que. Il me raconte que voilà. Il a 4 enfants, 4 filles, ils sont mariés, bon, Hachem. Alors, elles sont toutes venues en Israël au séminaire, après l'école, et elles ont rencontré un garçon, elles sont mariées, et toutes, au bout de 2-3 ans, elles sont reparties vivre à Paris, avec le garçon. Pourquoi? C'était trop dur en Israël.
Mais alors pourquoi?
Attends, ouais. Pourquoi c'était trop dur? Parce que, elle n'arrivait pas trop à trouver un travail, et lui, il était au Kollel, alors c'était trop dur. Parce qu'on a aussi créé une idéologie où il faut étudier la Gemara toute la journée, donc c'est mieux que d'aller travailler. Bon. Donc, ok, je lui dis, ok, donc maintenant il est en France. Ils font quoi? C'est pas pareil.
Il est au collège, mais il travaille.
Il est au collège et elle a trouvé un boulot de secrétaire médical chez un juif. Donc tout va bien. Je lui dis, mais comment ils s'en sortent? Elle dit, bah, c'est facile.
Avec papa.
Elle. Non, pas du tout papa, il n'y a pas besoin de papa. Elle est à 1007, lui, il touche le chômage. Ils ont 3 enfants, donc il y a les allocs, et puis il y a les autres allocs, et les autres allocs, et les autres allocs, et puis il y a un logement de l'État, et il y a ils ne payent pas de loyer, parce qu'ils ont un peu de revenus. Au final, ils s'en sortent à 3 000, 3 500 par mois, euros, et sans payer de loyer, et ils peuvent étudier à toute la journée. Attends, pourquoi est-ce que j'irai en Israël? Il va falloir que j'arrête de travailler, que j'arrête d'étudier, il va falloir que j'arrête de travailler. Non, mais pourquoi tu veux qu'il y aille?
Non, mais pourquoi? Parce que Am Israël, même quand il a toujours eu de la Messirut Nefesh pour la Torah. Donc en fait, même les périodes où c'était très dur,
il y a fait. Donc, le Rav Kook te dit, parce que les rabbins, ils ont enseigné que c'était pas obligé d'avoir la Messirut Nefesh pour être Israël. Pas tous, hein, évidemment. Je te dis, voilà. Il y a toute une culture de rabbins, et c'est 200 ans depuis le début de l'émancipation. On t'a dit, non? C'est Bessader Gamour, Routlaret. Il y en a même qui vont aller, tu vas dire que à sourd d'aller en Israël. C'est ça? Nous?
Moi, ça me dérange un petit peu cette truc du Tanakh et de la Kabbalah, parce que je suis sûr qu'il y a des très grands rabbinim de tous bords et de tout temps qui ont étudié la Kabbalah et le Tanakh.
Ils sont venus.
Ah, c'est pas possible.
Ils ont essayé de venir. Bah, des fois, c'était pas possible.
Prenons un exemple.
Prenons un exemple. Ça n'a rien à voir avec le niveau.
Non, mais des géonimes, je veux dire, que d'après l'étendue de leur connaissance.
Ça n'a rien à voir avec le niveau. Tu peux avoir des gens qui sont des très très grands érudits. C'est pas la question. S'il y a tout un pan de la Torah qu'ils n'ont pas étudié, ils ne peuvent pas la connaître. C'est une réalité. Maintenant, prenons un exemple tout simple. Yeshiva Tsura ou Pompedita. C'était pas des géants. C'était des géants, bien sûr. Manien, que Yeshiva Tsura, ils étaient palpélanim, Pompedita, ils étaient palpélanim, et Yeshiva Tsura, ils étaient pashtanim. que pratiquement tous les Mahamarim qui expliquent les versets, ils viennent de Soura, et toutes les Pilpoulim, ils viennent de Pompédita. Manien. Bah, au final, ça va créer une réalité que de Pompédita va devenir le Rosh HaYeshiva Rav Yehuda, qui dit cette phrase, tout celui qui monte de Babylone en Eretz Israël transgresse un commandement positif de la Torah. Alors que le Rosh HaYeshiva de Soura, Rav Una, il ferme la yeshiva et il fait monter tout le monde en Israël. C'est deux ambiances. Maintenant, de tout temps, on a eu ça. D'accord ? Maintenant, n'oublie pas qu'il y a des fois où c'était pas possible. Pas chaud, pas possible. Quand tu habites dans la vallée du Rhin et que commence la première croisade, c'est très compliqué de venir en Israël. Ça, donc les gens, ils viennent pas. D'accord, ils viennent pas. Après... Donc oui, de tout temps, il y a eu des géants, mais il y a des géants qui étaient connectés à ça, et donc ils ont tout fait pour venir, soit ils ont réussi, soit ils n'ont pas réussi, et il y en a d'autres qui n'étaient pas connectés à ça.
Toi, tu dis, à Galoud, Motzet, c'est moi, Mitsa d'Atsmuta, non, mais toi, c'est ton père rouge de Atsmuta, ça veut dire Nohriuta, c'est la Galoud, c'est... Pour toi,
ah, non, pas forcément, ça peut être Mitsa d'Atsmuta, genre, comme le Rav Hirsch te dit, lui, il parle pas de Kesef. Lui, il te dit, à Tafkit, chez l'anneau, c'est l'Echriot Bagalout. Ah, parce que maintenant qu'on a reçu l'émancipation, alors notre rôle est d'insuffler Gdusha Vetahara en Allemagne, et les Allemands nous diront merci. 100 ans plus tard, ils ne sont pas vraiment divers. C'est ça ? Qui ? La Massig Rak et à Shetach à Galouï. Mazé à Galouï. Torata à Niglé. L'oïr sar shum davar yesodi bechesron haaretz ve'amamlacha. Oui, parce que quand le Rav Kook te parle de Kdusha Teretz Israël, c'est pas seulement d'habiter ici sous domination palestinienne, ou turque, ou anglaise. C'est un gammamlacha, shilton, un état. Celui qui étudie que le Shetach HaGalouï, il voit pas en quoi c'est un vrai problème de pas avoir d'état d'Israël. C'est quoi, c'est grave d'avoir. On n'a pas besoin d'État d'Israël. On n'a besoin que de la Torah.
Pourquoi tu parles d'État d'Israël ?
À Mamlacha ?
J'étais chez mon prix dimanche, un arabe dit, tu viens plus, j'ai dit Tel Aviv. Il me fait, ah, Palestine !
Ah, bah oui, Palestine, bien sûr.
Je fais une telle, il fait, c'est à côté.
C'est ça ? Miché Massigra Ketacheta Chagalbi, Azoulo José, Malo Marcir, le Choumnava.
C'est à côté.
Vechol Trane Aouma Bebignana. Ah, le peuple il est en train de se reconstruire. So what? Lochachou. Ça, Oulo Mevin. Le Rafou qui est plein de Rachmanout. Et Oulo Mevin. Oulo Mevin, j'ai chasser machou. Yesod Tzipiata Yeshua. Ou etzlo kemo anaf tzdadi. Sheineno yachol leit kasher im omek akarat yadout. Le Rav Taichtel. Dans son introduction du Mabanim Smecha, qu'est-ce qu'il raconte ? Il te dit, bon, moi j'étais opposé au sionisme comme tous les rabbins de Hongrie. On était tous opposés au sionisme. Non, pourquoi on était au sionisme ? Pourquoi on était opposé au sionisme ? On n'avait pas vraiment de raison. À part le fait que Herzl n'avait pas de kippa, que les dirigeants de l'organisation sioniste mondiale, Ben Gurion, n'avaient pas de kippa. On est avant la création de l'État d'Israël, dans la Shoah. Donc les dirigeants sionistes n'avaient pas de kippa, donc on était contre. Mais en vrai, on ne s'est jamais vraiment penché sur le sujet. Mais pourquoi ? On n'avait pas le temps. Il fallait préparer le shiur de Gemara du lendemain. Maseret Makot, c'est plus important. C'est-à-dire, donc, vu qu'on est en train de faire un pile-poule sur Maseret Makot, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. C'est Anaf Tzadi. Alors qu'en fait, c'est Merkaz Achaïm. C'est pas chouette. Moi, on a fait un petit peu le tri de tous les bouquins qu'on avait dans la synagogue. Et on a toute une étagère remplie de livres que personne n'a jamais lus. Et que personne ne lira jamais. C'est... Ok, quand la cavode, le mec, il a écrit, mais enfin, on n'est pas obligé d'étudier tous les livres qui ont été écrits par un Talmid sur un chilouk entre le Rajba et le Ritva sur Hilchot Shvit. C'est long. Si t'as le temps et t'as tout fait, pourquoi pas, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus centrales.
On dit que dans l'ordre de l'étude, non, il faut... La Kabbalah, elle vient dans un stade beaucoup plus avancé.
Dans l'ordre de l'étude, qu'est-ce qu'il faut étudier en premier?
Ça dépend. Bon,
tu... Non, d'après, la, d'après le judaïsme. D'après le judaïsme. Ah, d'après le Tanakh.
Hein,
qu'est-ce qu'on a dit que dans ces Chougim-là, on avait arrêté d'étudier?
Tanakh.
Tanakh. Richard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tout bon, dans toute bonne yeshiva qui se respecte, tu peux trouver des gmarot en voiture, voilà. Trouver un Tanakh, ça va être plus compliqué. Ouais. C'est une réalité. C'est réalité absurde.
Ils sont moins bakim dans
le... C'est une... Mais non, même trouver le bouquin, hein,
ouais,
dans le Beit Midrash.
Ouais.
C'est l'Opachut. Ouais. Peut-être à la Sifria, il y en a. C'est une réalité complètement folle, ouais, mais c'est une réalité. Donc, la Gemara, elle te dit que Ben Hamesh la Mikra. Normalement, la Gemara, elle te dit tu peux pas commencer la Mishnah, c'est-à-dire la Torah, chez Béalpé, si tu ne sais pas qui tu es. C'est pas shoot.
Non, pour la Torah, ok, mais alors la Kabbalah.
C'est... Torah ta Kabbalah, hein. Vadaï qu'on te dit que d'abord tu dois étudier Torah ta Niglé. Vadaï. Parce qu'il faut d'abord que tu te construises une structure, un cadre. Mais le problème, c'est quand tu restes.
Censé
que
te rester assez de temps pour, voilà, pour compléter le choix.
Bah, a priori, Ben Arbaïm,
c'est ça.
La Bina.
Ouais.
Non,
mais donc, qu'il a écrit ce livre à des Rabbanim. Qui,
Non, mais de manière générale, je veux dire. À, si tu as fait les choses comme il faut, à 5 ans, tu as commencé le Tanakh. Non, pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est vrai pour tout le monde. Mais regarde, t'as fait le boulot comme il faut. À 5 ans, t'as commencé le Tanakh. Donc à 10 ans, t'as fini le Tanakh. Nahon que t'as pas fini tous les commentateurs, mais ça tu continueras, c'est Bessader. Mais t'as déjà fait un bon tour du truc. À 10 ans, tu commences la Mishnah. À 15 ans, c'est bon, t'as fini la Mishnah. Et donc après, tu peux commencer à étudier quoi? Alors c'est où? Chez la Talmud, qu'elle trouve là-bas. Eh bien, Khamesh serait la Talmud, ça n'a rien à voir avec la Gemara, évidemment, parce que c'est marqué dans la Mishnah, donc ça ne peut pas être la Gemara de chez nous. Talmud, c'est tout ce qu'il y a d'autre à apprendre. Puis après, tu te maries. Et puis après, tu commences ta vie.
À 20 ans.
À 18. 18. Après, à 20 ans, tu commences à prendre de la force, et Ben Shloshim la Kohar. Et il y a fait. Et là, tu es à Ben Arbaim, la Bina. Ah, Torah ta Bina, Torah ta Kabbalah. C'est où? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir 40 ans? Non. Ben Arbaim, c'est un concept. C'est pas un âge, forcément. Donc, ça veut dire que, bien sûr que tu commences par autre chose. Mais tu peux pas t'arrêter à autre chose. Ok? Yesod tzipiat ha-yeshua ou etzlo kemo anaf zadi sheineno yechol leitkasher im omek hakarat ha-yahadut. Veze be'atzmo hu davar ha-ma'amid al chesron ha-avana sheyesh b'shitat me'atat ha-leshed kazot. C'est ça le problème qui fait qu'il n'arrive pas à se connecter à cette chayout pnimit. Ken, ma shenikra, me'atat ha-leshed, c'est la chayout pnimit. Ou lo matzliach. Ok? Maintenant, le Rav Kook te dit attention, deux secondes. Lo sholelim anachnu kol min tziyur ve'avana ameyusad al yashrut ve'rikshe de'a ve'irat shamaim be'ezo tzura shei. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu arrêtes le dafyomi. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut arrêter le shiur de halakha dans la communauté. Bien sûr que non. Nous ne sholelim shum yashrut v'rikshe de'a v'irat shamayim. C'est bien c'est gamour. Rak et oto atzad sheshitat kazot tachpots lishlol et arazim v'et hashpa'atam agedola al ruach ha'uma. Je ne suis pas en train de partir en guerre contre tous les rabbanim du Niglé. Pas du tout. Moi aussi, il ne te le dit pas ici, mais moi je te le dis. Lui aussi, le Rav Kook, c'est Rav Niglé. Il écrit énormément des livres de Halakhot, ce que tu veux. On connaît moins les livres de Halakhot du Rav Kook. Mais en fait, le Rav Kook, il a mis en place le mif'al de Halakha le plus important qui a jamais été mis en place. Machinikra Halakha Broura. C'est un mif'al extraordinaire. Donc, il évidemment qu'il faut étudier le Niglé. Aval, je pars en guerre contre ceux qui viennent faire la guerre à Torah Tanistar. D'accord? Qui zeu asson chez anu chayavim l'ilchom oto be'etza ou bidvuna bikdusha ou bivura. C'est un vrai danger, cet idéal de anti. Et donc, contre ça, il faut se battre absolument. Zechashuv, meod, chazak ou balzak.
Pour ceux qui sont intéressés par le...